Radio Libertaire, chronique hebdo. Alors on a entendu notre ami là, Amadeus, Wolfgang, Amadeus, Mozart. Je vous donnerai indication sur l'orchestre et puis sur les morceaux choisis. Et puis, tout à l'heure, on avait écouté « Faut plus le gouvernement ». Et puis surtout, nous avons écouté, Jacques Prévert. Hein, Jacques Prévert, « La chasse à l'enfant », superbe texte de Marianne, enfin superbe texte de Jacques Prévert, interprété par Marianne Oswald. Jacques Prévert, ça fait du bien, hein, m'a envoyé d'autres chansons tout à l'heure. Alors, un auditeur, des auditeurs, oui, revenaient, hein, puisque un auditeur nous parlait de, il nous disait sur BFM, Mon TV ou Business, chaîne en continu, LCI, enfin tout ça, ou même sur Europe 1, ne pas citer cette radio, Lagardère, Iratatoi. En boucle, hein, le matin, le bourrage de crâne, hein, je vous l'ai dit, RTL, enfin tout ça. Donc, ils ont tous leurs experts, c'est ce qu'ils nous disaient, donc, qui viennent raconter des tas de trucs. Un mec était en train de dire que le coût, hein, vous savez, c'est pas le coût, la richesse de la main-d'œuvre, mais c'est un coût c'est un coût tordu, évidemment, pour le MERDEF, hein, le patronat, enfin tout ça, toutes les CAC 40, 35 euros l'heure travaillée, hein, en France, bon, plus cher, enfin bon. Donc de quoi se plaignent-ils, hein, pour ça? Donc tous les menteurs, mais je lui disais, donc, c'est les grandes écoles du crime, hein, de commerce, où là aussi c'est une forme de d'étudiant. Le Hollande est passé là-dedans, il a été l'ENA, il a fait la HEC, hein, hautes études, c'est ça, de la connerie. Enfin bon, ça sert pour des histoires de pognon, hein, comment apprendre à dire des tas de choses comme les curetons. Les gens diront, oh là là, ils parlent bien, hein, ils disent des trucs extraordinaires et tout ça. Donc ce genre de gogo, je lui disais, un peu autiste, hein, ils sont un peu de, c'est le même monde, hein, c'est la reproduction des pseudo-élites républicaines. La République nous appelle. Et la République. Alors, oui, Marianne, hein, Marianne. Là, c'est Marianne, le collectif Marianne du FN, ou quand je pense à l'autre aussi, debout en deux mots, du Pontaignan, debout la République, D.E., plus loin, B.O.U.E., la République. Monsieur Dupont-Aigneux, il va changer d'appellation. Enfin, il va garder la même appellation, plutôt, mais changer l'orthographe. Hein, debout la République. Alors, debout la République, ben oui, juste avant de vous parler de la question nucléaire, les journaux, alors le Canard Enchaîné se déchaîne, hein, le Canard Enchaîné, et donc enregistré à son insu par Buisson, écouté par les juges, Sarkozy, c'est le comique de la bande. Le comique de la bande. Alors, là aussi, je vous avais dit, devant un kiosque, il y avait le magazine, enfin le magazine, on peut appeler ça comme ça, Marianne, c'est un hebdo. Et dedans, ils avaient mis une affiche qui reproduisait le film, une image du film, c'est l'image culte dans la cuisine des tontons flingueurs, hein, donc de Georges Lautner. Le conseil, vous pouvez voir des extraits sur Internet, hein, maintenant, c'est formidable. Georges Lautner, alors les tontons flingueurs, et là aussi, à la place de la gueule, alors il y avait Francis Blanche, hein, il y avait Lino Ventura, Bernard Blier, et ils avaient mis les gueules de Copé et les gueules de Buisson. Hein. Rappelons que c'est un merveilleux dialogue de Michel Audiard. Alors je disais aussi tout à l'heure, je vous l'avais dit, hein, la scène culte aussi, et le clan des Franciliens, donc le film à venir avec l'épigone d'Henri Verneuil. Alors, Là aussi, souvenons-nous, puisqu'on parle du comique, que Sarkozy, c'est le comique de la bande. Alors, il y avait un autre Nicolas, hein. Bon, ça c'est pour les plus anciens, mais vous pouvez retrouver, c'est l'avantage aussi de toutes ces informations, tous ces documents qu'on peut regarder. C'était à l'époque, c'était avant Coluche, hein. Et c'était un comique qui s'appelait, enfin bon, la dénomination artiste comique, Roger Nicolas, hein, c'était pas Nicolas Sarkozy, lui c'était Roger Nicolas, alors Roger c'est le prénom et Nicolas le nom, et lui c'était souvent, à ses interventions, il disait écoute, alors bon, dans plein dedans, hein, écoute, et alors à Fernand Reynaud, alors je vais vous dire aussi, donc pour les plus jeunes, hein, refaites votre culture de vrai comique, et pas de comique troupier, comme vous avez maintenant, hein. C'est-à-dire débrancher des questions du monde, débrancher des questions politiques, parce que les sketchs de Fernand Reynaud, à réécouter, il y avait quelque chose de contenu à l'ororo, allô tonton, pourquoi tu tousses, hein ? Alors bon, tonton, on peut voir ça, hein, tonton de l'Élysée, tonton m'écoute, bon, j'avais fait ce petit jeu de mots, tonton m'écoute, hein, Papadoc, à Haïti, ils avaient donc une milice particulièrement dangereuse et particulièrement violente qui s'appelait les tontons Macoutes. Donc les jeux de mots à l'époque, ça avait été enfin en tout cas ce qu'ils ont dans l'Hexagone. Eh bien c'est Tonton, hein, le surnom de pour les plus jeunes de François Mitterrand, pour les services secrets, des séries. Et c'était Tonton m'écoute, et Tonton avait fait écouter à l'époque, hein, il avait fait écouter plein de gens, hein, Monsieur Elvie Plenel, souvenons-nous, Mediapart maintenant, Le Monde, enfin à l'époque, tout un tas de gens, parce qu'il avait peur qu'un secret d'Alcove, un secret, donc fille de Monsieur Mitterrand, hein, élevé avec les deniers de la République, eh bien, il se fasse un peu surprendre, enfin bon, parce qu'il avait pas dit, enfin, il aurait pu le dire, hein, de toute façon, tout le monde, apparaît-il, à l'époque, le savait, enfin, dans les petits cercles, et pour essayer d'empêcher que l'information puisse sortir, il écoutait beaucoup, hein, alors, il y a eu tout un tas d'affaires, enfin bon, ça, c'est là. Et alors, on peut penser que les progrès techniques ont fait que l'écoute, eh ben, c'est particulièrement développé avec la NSA, la National Security Agency, hein, du côté des USA, des États-Unis d'Amérique. Snowden, enfin, il y a eu tout un tas de choses. Et alors, il n'y a pas de réseau. Ils savent tous. Merkel était écouté par Obama. Enfin, bon, ils écoutaient tout le monde et les autres. Après, il y a l'ancienne, hein. Bon, il y a le dictaphone à la Patrick. Donc Buisson, alors il y en a d'autres, ils ont toutes ces machines, alors ça va se perfectionner, un jour ça va être avec un stylo, hein, on va un pins, par exemple, le pins de monsieur Pierre Gattaz. Alors à propos de pins, allez voir le pins sur, si vous avez internet, le blog de Chronique Hebdo, hein, vous verrez le nouveau pins de Chronique Hebdo pour répondre au pins de Pierre Gattaz, hein, un million d'emplois, comme on a dit, un million d'emplois en moins, un million d'emplois en plus en moins, c'est comme je vous disais tout à l'heure l'histoire des statistiques pour le chômage, hein, comme disait Monsieur Sapin, ça dépend quel indicateur vous écoutez. Alors, allez voir ça, oui, pour répondre justement à, bon, j'utilise toute la sophistication des systèmes. Tout le monde s'écoutera, on s'écoutera en famille. Tu t'écoutes aussi, hein, c'est ça, c'est, vous savez, pour sa petite santé et tout ça, ça va pas très bien aujourd'hui. C'est un peu disparu comme expression, mais bon, il s'écoute, hein, ça veut dire qu'il fait trop attention à sa petite personne, à sa santé, hein. Alors c'est ça aussi. Donc j'ai vu, puisqu'on est en pleine santé, en plein délire, puisque certains sont marrés de voir que le Sarko Show, le Sarko Land, avec la Bernadette de l'ancienne de l'Élysée, avait été à Nice pour visiter un centre Alzheimer. Alors, bon, les blagues par rapport à ça, mais ça les concernait, puisque comme ça, quand on les posera des questions, à force de fréquenter Alzheimer, hein, j'ai perdu la mémoire, je ne peux plus répondre. Je suis un donateur important, enfin, puisque c'est, en plus, c'est pas mon pognon, pour le centre Alzheimer. Et donc, je n'ai plus rien à vous dire. Et alors là-dessus, aussi, puisque vous êtes donc rigolé un peu là avant de passer sur la question nucléaire avec ce qui se passe à Fukushima, mais qui est pas au Japon, qui est surtout un peu partout et qui est un peu planqué, puisque le nucléaire, il y en a pour tout le monde. Je vous l'ai déjà dit, il est généreux, il donne à tout le monde. Hein. Alors là aussi, pour rester dans ce domaine-là, il y avait comme thème intéressant, c'était repris dans le Canard enchaîné, il reprenait Albert Camus, alors vous savez qu'on cite souvent Albert Camus, et qui disait « N'être plus écouté, c'est cela qui est terrible. Hein. » N'être plus écouté, c'est cela qui est terrible. Alors on pourrait dire, j'espère que ça ne sera pas le cas pour Radio Libertaire. Hein. Et pour certaines émissions de Radio Libertaire, de ne plus être écouté, c'est terrible. À ce sujet, vous pouvez réécouter les émissions de Radio Libertaire, en particulier Chronique Hebdo, sur le podcast. Le podcast, pendant un mois, vous avez toutes les émissions, donc Radio Libertaire, et puis le podcast, et vous pouvez réécouter, voilà, et faire réécouter, enfin, tout ce que vous souhaitez faire. Et puis, avec ce système d'écoute, donc je vous le disais, en particulier pour Monsieur Buisson, donc l'histoire du dictaphone, enfin comment va se faire la sophistication des machines. Alors on avait quand même appris, bon, juste comme ça, comme on dit, entre parenthèses, il y a l'affaire, enfin, il y en a, c'est un millefeuille, comme ils disent, de toutes ces affaires empilées. Alors, donc, un autre conseiller, tous les escrocs de la com, comme M. Goudard, et ils ont entendu, enfin, je sais pas, c'est que Claude Guéant, alors, connaît toutes les conneries qu'elle a faites, alors, il parlait de MAM ou de Bachelot, hein, bon. Alors, MAM, Michel Alliot-Marie, pour les intimes, celle qui avait voulu envoyer le savoir-faire français de la répression à Ben Ali, avait dit, Ben Ali a des petits soucis là, écoute, nous on a un sacré savoir-faire. Hein. Madame Mam aussi avec l'affaire de Tarnac, qui revient, petite histoire de l'affaire de Tarnac, un James Bond, pas français mais anglais, James Bond évidemment, et donc qui était un espion qui était envoyé à Tarnac, et puis la mise, vous savez, le montage de l'affaire de Tarnac. Alors, la mère Mam, la mère Bachelot, avec ses 90 millions, enfin, de dosettes pour, contre la grippe, enfin, tout le pognon, puisque maintenant, a fait le D8, là, Madame Bachelot, hein. Donc, a fait la comique, avec les gonzesses, enfin, bon, qu'on peut voir, enfin, toutes ces fines équipes, donc, journaleuses, enfin, qui refont des séquences de musicals sur une chaîne, D8, enfin c'est pas ce que c'est par rapport à ça, mais c'est pour ça qu'elles y sont, parce que grassement, encore une fois, on parlait tout à l'heure de 35 euros de l'heure rémunérée, des 10 000, des 12 000, on leur donne plein de pognon, puisque c'est la com, la pub et tout ça, donc c'est fait pour abrutir. C'est comme pour l'armée, comme pour la police, donc c'est un rôle quand même de matraquer, de bousiller les neurones, les neurones de ceux quelques-uns qui s'égareraient sur ces chaînes-là et qui regarderaient. Alors donc, là-dessus, comme ils se détestent tous, vous savez, bon, c'est pas une nouveauté, puisque tout à l'heure, je vous l'ai dit, le fin du 19e siècle, faut plus de gouvernement. Là, interprété, on a entendu ça, cette chanson, donc faut plus de gouvernement. Donc, ils se détestent tous, parce que c'est l'histoire, je veux vous parler tout à l'heure des grimpions, Restez à l'antenne. Les grimpions, très important, je vous dirai qui c'est les grimpions avant la fin de cette émission. Alors, Ils se détestent, ils se haïssent, c'est qu'une bagarre d'ego, hein, de s'ego et d'ego. Et là, on l'a les révélations qui n'en sont pas, hein, confirmation. Donc, mon ennemi intime Darkos, alors l'autre ennemi du découvre, à la tête de la République, il dit des ministres nuls, hein. Et Renchéri Buisson, archi nul. C'est pour ça qu'il était payé, Buisson. Hein. Il était payé beaucoup, beaucoup pour dire, quand l'autre disait nul, lui disait archi nul. Oh, c'est bon, alors Sarko était là à côté. Oh là là, le mec, il pense, Patrick Buisson. Ça, on a bien fait de le recruter. Hein. Voilà les quelques propos. Je pouvais vous dire, alors avant de passer à la question nucléaire, à la condition nucléaire, eh bien, je voulais vous donner juste cette petite info pour rigoler un petit peu encore plus, ou moins, au sujet de ces élections-là qui se profilent, enfin les démunicipales, comme je les appelle, les démunis, hein, ceux qui sont démunis, alors, démunis de neurones, donc qui vont aller voter, qui vont aller collaborer, qui vont aller donc être partie prenante de tout ce que peut faire l'appareil d'État, comme ce matin un contrôle dans un bus, donc à Paris, avec des mecs qui sont même pas, il y a même pas d'uniforme, on peut même pas les reconnaître, on sait pas ce que c'est, tout le monde est habitué, super contrôlé, et des gens qui n'ont pas de tickets, alors que je vous le rappelle, il y a certaines villes de France, hein, à Aubagne, près de Marseille, où les services publics sont gratuits, hein, les bus et tout ça, donc ça évite plein de choses comme ça. Donc un climat de terreur, quasiment ce matin, malsain, hein. Deux mecs un peu des tenues grises, avec des machines, et puis en train de ponctionner, hein, quelqu'un qui avait pas mis le ticket au bon endroit, un truc comme ça, ou une femme, et bien là, il fallait lui donner, lui piquer à elle, aux pauvres, hein, et dans les bus, hein. Du pognon par rapport à ça, il n'y a rien à faire. Enfin, moi, j'ai essayé d'intervenir, vous en doutez bien. Ils écoutent même pas, ils ont été formés, ils comprennent rien. Il y a un mec qui m'a dit, tout ça, les transports gratuits, c'est politique. Alors moi, j'ai dit, oui, si c'est politique, c'est pas la peine de discuter. Hein. C'est ça la nouveauté aussi, personne n'intervient, personne ne discute. Hein. Là, c'était le silence des agneaux, général. Même certains donnaient des conseils. Quand vous rentrez dans le bus, eh bien, faut mettre votre ticket au bon endroit, hein. Comme là, la prochaine fois, vous aurez pas d'ennui. Voilà. Hein. Je vous l'avais dit, la montée de l'ignorance. Alors, c'est comme ça, hein, on peut l'observer. Et, pour les démunicipales, parce qu'ils sont tout blancs, qui se profile, partout, les analyses des politologues, hein, nouvelle race de magasins, de politologues, hein, c'est récent, ça, les politologues, ils disent, pour les villes dans l'ensemble, hein, pour l'ensemble des communes, mais bon, les villes un peu importantes, droite-gauche, c'est pareil. On fait exactement la même, ils appellent ça politique. Et on fait les mêmes affaires. Et on fait les mêmes aménagements. J'ai vu un truc, je crois que c'est à Bordeaux, un vaporisateur d'ambiance à l'extérieur avec Monsieur Juppé. Enfin, c'est ça. Hein. Bon, les initiatives qui ont été prises pour faire la gratuité des transports, il n'y en a pas beaucoup. Et ça pourrait simplifier, mais évidemment, c'est pas la question pour l'Île-de-France. Hein. Comme je l'ai dit, les Îles-de-François, Madame Hidalgo. Elle a d'autres soucis que ça, hein. Elle est nulle, comme dirait Patrick Buisson, archi nulle. Alors pour terminer sur, et on n'en finira jamais, pour ces démunicipales, une petite question de sémantique, hein, pour les académiciens français. Eh bien, grave débat linguistique, faut-il dire la mère, madame le maire ou la mairesse? Vous avez 10 secondes. Alors, Jean-Pierre, aux yeux de l'Académie française, les défenseurs de la mère se trompent totalement de genre. Aux yeux de l'Académie française, les défenseurs de la mère se trompent totalement de genre. Mère est un nom masculin, dont on dit, dont qu'on doit dire, Madame le maire, explique le Parisien. Parce que le Parisien, les Bénets, le Parisien libéré, c'est une catastrophe, évidemment, vous en doutez bien. Il y avait la tronche de NKM ce matin. C'est vrai que les pauvres, ils sont... on leur met payer ça, hein, donner des sous. Enfin, c'est comme ça. Hein. Volez-les, ce qu'ils vous volent. Ils appellent ça les gratuits. Enfin, les gratuits payés par la publicité. Mais le Parisien, donc c'est quand même c'est toxique, mais qu'il achète un truc, un poison. Et donc il achète le poison. Le Parisien. Qui lui raconte ça et la suite. Mais les éditeurs du dictionnaire Le Robert ne sont pas d'accord. Maire est un nom épicène. Alors épicène, c'est sérieux, hein, vous aurez appris quelque chose. Comprenez qu'il peut être employé différemment au masculin et au féminin. On peut tout à fait dire, dire Madame le maire ou une mère. Donc on peut dire la mère. De toutes les batailles est engagée. Alors vous pouvez dire la mère. Hein. Alors là, moi je vais voter pour la mère. C'est ma mère. Alors c'est ma mère, c'est à Bègle. Hein. Alors donc sur ma mère, ils vont voter. Si c'est une candidate qui est élue, ça va être ma mère. Est-ce que ça sera une bonne mère? Est-ce que ça sera une belle mère? Et tout ça, vous savez que c'est une histoire de vinaigre, hein, puisque ce qui est dans le vinaigre. Pour faire du vinaigre, eh bien, il faut une bonne mère. Alors, voilà, c'est pas plus haut que ça, les élections des démunicipales, pour l'histoire de la mère, qu'on voit danser le long des golfes clairs. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo, numéro du studio 01 43 71 89 40.
C'est pas ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces pièces-là?
Mais pas simplement de rire, tu vois, on va essayer de mettre en rapport ces questions de la politique, essayer de montrer que Castoriadis, l'insignifiance de tout ça, par rapport à la France. Et j'ai oublié de ta mère, je vais le sentir. Pour Hidalgo. À bientôt. Radio Libertaire, Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo qui reprend. Un petit peu d'écho dans le casque. Mozart, hein, encore, Amadeus, Wolfgang. Donc c'était Andante, hein, bon, et qui s'appelle, c'était Piano Concerto numéro 21. Là, vous savez que la classification des œuvres, K-467. Alors une auditrice, elle avait raison, elle me disait, ben, il a toujours été exploité, ce pauvre garçon, hein, à 4 ans. Ben, là aussi, hein, faut se rendre compte de la souffrance de ce créateur génial, exceptionnel, on n'emploie pas souvent ce mot, et qui est mort dans relativement jeune, hein, très jeune, et un peu abandonné. Enfin, il y a tout un tas d'histoires sur la fin de sa vie et les obsèques, comment ça s'est fait. Enfin, tout ça, il y a différentes interprétations. Mais en tout cas, c'était pas forcément une admiration. Faut se reporter à l'époque. Et là, je vais essayer de régler tout à l'heure parce que je sais pas si ça me met dans mes trucs, dans les oreilles. Hein, ils m'écoutent peut-être, non? Ça dégêne peut-être un peu. Et je ne sais pas. Enfin bon, c'est curieux parce que ça a un peu changé là les conditions d'écoute. Hein. Écoutez. Alors voilà pour Mozart. Alors simplement, on écoutera aussi tout à l'heure peut-être terminer une petite finir avec une partie avec Amadeus. Alors un auditeur me disait, bon, on avait un peu blagué sur le fait de mère, hein, vous le savez, mère, père de chaussettes, hein, c'est ce qu'il disait. Bon, mais alors, une paire, un père. Et là, plus sérieusement, non, je pensais que, comme le pins, hein, ça pourrait faire des slogans. Alors bon, on a dit aussi bien mère, féminin que masculin. Alors, bah, c'est ça dans les cités, nique ta mère, hein, faut pas l'oublier, nique ta mère. Alors, pour Hidalgo, un beau slogan. Alors on dirait, bon, ben, vous savez, ils sont prêts à dire, ben non, on n'a pas d'humour, alors on rigole pas avec ça, hein, ce que ça veut dire, nique ton père. Mais c'est là aussi, il faut l'employer, mais dans ce sens-là, pour les citer, les rappeurs rebelles qui souffrent, eh bien, un petit rap à faire justement sur le fait de ces élections. Ces élections qui changent tout, hein, parce que je vous disais là, je voyais très bien le changement, c'est maintenant, hein, puisque je voulais vous parler de Fukushima, des manifestations qui ont eu lieu dimanche dernier à Fukushima. Je voulais revenir aussi je vous avais dit, une émission de France Culture, en particulier sur un ouvrage, La condition nucléaire, écrit par le philosophe Jean-Jacques Delfour. Alors, il y avait plusieurs informations. Donc, Fukushima, les tas de films, hein, si vous avez vu le désastre, des vivants, les titres parmi les fantômes, retour dans des villes mortes de Fukushima, 3 ans après le séisme et la catastrophe nucléaire au Japon, les territoires contaminés sont tombés dans l'oubli. Alors, je vous lis quelques lignes, comme ça, les hirondelles et les moineaux ont disparu. Il n'y a plus de grenouilles, des arbres meurent sans que l'on sache pourquoi, dit un ancien fonctionnaire de la mairie. D'Itate, 6000 habitants à 100 km au nord-est de la centrale. Alors là, il y a aussi des animaux qui ont été abandonnés. Hein. Alors, il y avait des éleveurs, donc il y a des vaches qui ont été laissées comme ça. Il y a eu histoire de d'autres animaux. Là, on nous dit que les sangliers qui se sont souvent accouplés à des cochons, abandonnés dans l'exode, ravagent les campagnes, poursuit-il. Bon, se nourrissant de tout ce qu'ils trouvent, ils sont hautement contaminés. Hein. Là aussi, une nouveauté, ça va venir. Hein. Donc, de l'alimentation carnée, radioactive. Hein, ça va être bon, hein, puisqu'il y a une des époques où c'était la radioactivité, il fallait en manger. Enfin, on en a mangé. Hein. C'est vrai que ceux qui nous le recommandaient, ils recommandaient ça dans les années 50, pour être en pleine santé, en bonne santé. Hein. Déjà, ça commençait, la connerie. Enfin, ça continuait, hein, par rapport à... On en parlera de Nagasaki et Hiroshima, hein, le lien avec Fukushima. C'est pas que il y a des sonorités communes, mais c'est qu'il y a une analogie extraordinaire. Hein. Je vais vous en parler de la bombe. Le nucléaire militaire, le nucléaire civil, c'est pareil. Mais on le savait pas, on nous l'a pas dit. On nous l'a pas dit, mais enfin, ben, y a des gens qui vous l'ont dit. Mais comme je disais tout à l'heure, ceux qui l'ont dit, enfin, il y a bien longtemps, qui étaient à Fessenheim dans les années 70, hein, dernièrement aussi, on peut revoir l'an 01. Film de Doyon, scénario de GB, 1973, hein, 40 ans, rien que ça, avec, on retrouve, il y a François Béranger, Jette tes clés, je vous parle de ça parce que c'était l'époque, la création de, on voit dans ce film Isabelle Cabu, qui était au départ la création de La Gueule Ouverte avec Arthur. Mais pas celui, évidemment, si on dit Arthur, les gens, ils connaissent plus que le connard, vous savez, de TF Chien, tout ça, enfin, tous ces crétins pleins de pognon, enfin, qui ont ce rôle-là de comique troupier d'abrutir les foules, ils y arrivent un peu quand même, hein. Je pense, c'est pour ça qu'ils gagnent tant de pognon. Donc, à l'époque, les manifestations avaient commencé à Fessenheim, et là encore, évidemment, l'escroc de l'Élysée, la promesse qui n'engage que ceux qui les écoutent, comme disait M. Pasqua, d'arrêter Fessenheim, bah c'est pas le changement, c'est pas pour maintenant. Apparemment, donc, ça se fera pas. Alors, le lien, enfin, pas tout de suite, puisque les projets sont quand même de faire que les centrales nucléaires françaises, parce que c'est vraiment français ce truc-là, hein, quand même, hein. C'est une spécificité française, hein. Alors, bon, puisque là aussi, il y avait ça c'était autour du 8 décembre, hein, c'est précis. On voyait le Premier ministre, Monsieur Hérault, devant Henri Proglio. Bon, lui, il est sur la, je sais pas s'il va rester, enfin bon. Là aussi, PDG d'EDF, là aussi, c'est catastrophe. C'est des catastrophes ambulantes avant, hein, hein, puisque je vous parlerai tout à l'heure des êtres nucléaires. Qu'est-ce que ça veut dire, être nucléaire? Sur le chantier de la centrale, alors là, ils étaient Proglio et Hérault, sur la centrale nucléaire de Taishan, en Chine. Et pourquoi? Parce que EDF et Areva veulent rendre l'EPR enfin exportable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EPR? Vous le savez, on vous le rappelle quand même, hein. Donc, les nouvelles races de centrales nucléaires, de réacteurs. Ça veut dire European Pressurized Reactor, hein, ça veut dire European, donc réacteur européen pressurisé. Alors, c'est toujours la même histoire entre pressuré et pressurisé, hein. Faut pas se tromper pour le travailleur. Parce qu'on entend ça, le travailleur pressurisé. Non, non, c'est le travailleur pressuré, hein. Pressuré. Comme le citron. Et après, on jette la peau. Et là, c'est pressurisé. Alors, là aussi, bon, c'est sans danger, hein. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est sans danger. Mais enfin, le problème, c'est de, la construction se fait en Finlande. Il y a des petits soucis. Sur les budgets qui se multiplient par deux et par trois. En France, c'est pareil, hein, ils ont des gros problèmes, là aussi, on l'a dit, pour le dôme, savoir s'ils vont le fermer ou l'ouvrir, problème de rustine, mais sérieusement, hein, puisque c'est quand même des choses qui impliquent chacun d'entre nous, et dont la majorité s'en fout, puisque ça sera pas du tout sur les programmes. Est-ce que dans les intentions de la votation, évidemment, dans les programmes qui vont être faits par les maires, alors même maires écolos, hein, je sais pas, ils ont autre chose à parler, ils aborderont cette question, et en particulier pour les gens qui sont proches des centrales nucléaires en France ou des sites de retraitement, puisqu'il y en a partout, hein, puisque c'est le premier pays pour la surface, le premier pays de la planète, du monde, hein, Jeux Olympiques, premier, pour le nombre de centrales nucléaires. Alors, ils veulent exporter ça aussi en Arabie Saoudite, parce que là, ils ont du solaire, mais c'est mieux. Hein, Riyad envisage la construction d'un parc pouvant aller jusqu'à 16 réacteurs. C'est pas mal, ça, hein, aussi. Donc, donner du pognon, n'importe quelle condition, qu'ils construisent n'importe quoi, c'est pas le problème, ça fait travailler. Et puis, ça fait que certains ne savent plus où les foutent, hein, les milliardaires, leur pognon, mais ce sont des malades, hein, vous le savez bien. Et donc, sur cette question-là, les autres malades du nucléaire, les criminaux, nucléocriminocrates, qui sont particulièrement virulents et particulièrement importants dans l'Hexagone, hein, voilà. Alors, à la Chine, donc je vous disais à l'Arabie Saoudite, exporté, en Inde aussi, où il y a eu quand même des manifestations, des gens qui ne sont pas d'accord, et un ou deux en Pologne, et au moins deux, là je vous le disais, puisque 16 est prévu pour l'Arabie Saoudite. Alors, autre idée, alors c'est pas une idée évidemment, c'est du délire, c'est extrêmement dangereux. Le fait qu'il y ait des centrales, qu'il y ait des sous-marins fonctionnent, vous savez, à l'énergie nucléaire, des petits réacteurs, ça a donné l'idée à des docteurs Folamour, comme je dis, Hiroshima, mon amour, eh bien, de faire des petits réacteurs de 50 à 300 mégawatts, souvent dérivés, bah oui, c'est ça, des sous-marins, hein, faut que ça serve à quelque chose, je vous le disais tout à l'heure, militaire. La guerre nucléaire civile, c'est la même chose. Donc là, on ferait tentative d'immersion, hein, c'est déjà plus qu'avancé. On développe un qui s'appelle Flex Blue. Ah, Flex Blue, c'est bien ça, chanson. Une unité immergée de production d'énergie nucléaire de petite puissance de 50 à 250 mégawatts. Mais pour le moment, importante difficulté opérationnelle dans ce nouveau métier, donc ça marche pas si bien que ça. Donc vous savez qu'il y avait l'idée de centrale, là je veux dire, pour l'électricité avec les éoliennes. Là aussi d'autres idées, enfin bon, celle-là de mettre des turbines dans la mer, immergées, hein, pour faire l'électricité, toujours plus fort, toujours plus loin, hein, développons-nous, compte surdéveloppons-nous, il n'y a que ça de vrai. Et l'autre délire, eh bien peut-être de faire des petites centrales dans la mer immergées comme ça. Bon, si ça pète comme l'on voit à Fukushima, hein, vous l'avez vu pour Fukushima, c'est-à-dire qu'actuellement c'est comme les Shedok qui pompent dans les réacteurs, dans ce qui reste, avec des quantités, des centaines de milliers de tonnes de flotte irradiées. Et dans un premier temps, comme ils veulent pas foutre ça dans l'océan, eh bien ils stockent ça dans des réservoirs, hein, dans des citernes, comme ils disent, des citernes radioactives. Alors on ne sait pas où ça ira, hein, s'ils décontamineront, s'ils y arriveront. Et le boulot, c'est près de 40 ans. Voilà, le boulot, c'est il faudra 40 ans pour Fukushima. Alors je voulais vous dire. Donc, cette manifestation où il n'y a pas eu quand même trop de monde, hein, c'était dimanche dernier. Et là, je voyais, c'est ça, à la Tour Eiffel. Alors bon, 20 000 femmes candidates en plus, c'est le journal des municipales. Hein, c'était un sujet qui était traité dans les infos. 20 000 femmes candidates en plus pour les municipales, c'est intéressant. Et combien de manifestants? Bah, 4-5 000 à Fessenheim. Hein, c'est ça, c'est-à-dire le souci d'être candidat. Et comme je disais tout à l'heure à une auditrice, leurs enfants, petits-enfants, ils en ont rien à secouer, puisque certains seront disparus. Et donc, ils prendront du nucléaire plein la gueule. Alors, le nucléaire plein la gueule, ils en prendront, parce que c'est un peu, je vous le disais, Jean-Jacques Delfour, philosophe, donc qui a pris conscience de la dangerosité, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, du nucléaire après Fukushima. Alors il raconte donc il a un enfant, hein, ça part quelquefois, c'est un peu comme ça, 12-13 ans, et il se dit quel monde je vais lui laisser. Et lui, il s'est rendu compte, Il s'est rendu compte, évidemment, de ce que c'est que le nucléaire, qui est absolument partout. Il rappelait le Mercantour dans les Alpes. Vous avez des doses de radioactivité, un compteur, un dosimètre, un compteur Geiger. Il est pulvérisé, là, si vous passez à cet endroit-là. Donc, vous le savez, le nucléaire, ça se voit pas. Donc, on en bouffe. Hein. C'est comme les pics de pollution, la pollution dans les villes. Le pays le plus irradié, un des plus irradiés, c'est quand même la France. Hein, parce que dans leur fonctionnement des centrales nucléaires et des sites nucléaires, ça balance évidemment de la radioactivité partout. Hein. Alors, comme il a dit, bon, les connards, vous le savez, dans les débats, ils disent, il y a de la radioactivité partout. Vous aussi, monsieur, vous êtes radioactif. Lui, il répond simplement, oui, mais le plutonium, ça n'existe pas dans la nature. Le plutonium, c'est pas comme l'uranium, hein, ça a été constitué. Puis l'avantage du plutonium, c'est que les doses, c'est-à-dire un millionième de gramme, on en est dans des doses comme ça, extrêmement dangereux pour irradier et pour radier de la carte des centaines de milliers de gens, puisque les doses de plutonium, et alors le plutonium, bah, ils en recyclent un peu, hein, ils en foutent dans le MOX, hein, vous savez, c'est un mélange, quoi, ça s'appelle ça, oxyde, et en particulier au Japon, ils en ont utilisé, et donc, eh bien, le Jean-Jacques Delfour, il s'est aperçu de tout ça, c'est-à-dire que tout ça, on l'imposait, comme il dit, il n'y a pas de choix, hein, le choix en avion. Vous prenez l'avion, bon, il y a un accident ou autre chose, ou une autre centrale, un charbon, ou les pollutions, ça peut être arrêté. L'avantage avec le nucléaire, c'est que ça dure des dizaines, des centaines de milliers d'années. Et on ne sait pas quoi faire. Alors évidemment, vous savez bien, si on va voir Madame Lauvergeon, hein, Lauvergeon dans le goudron, nous dira, ils verront trouver la Sherpa, le Mitterrand. La Sherpa, le Mitterrand, elle a dit, ils trouveront des solutions. Oui, les experts. Alors, ils seront plus là, mais les enfants et les petits-enfants seront là, et donc, il faut que ça passe par la philosophie, donc il faut que ça passe par la sociologie, pas tant que ça, hein, il faut surtout que ça passe par des gens qui pensent un peu autrement. Et hors normes, hein, hors système, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour Fessenheim, avec la gueule ouverte, et toutes les associations, si on reprend les RAD, si on reprend celle accro, je crois, de l'Ouest de la France pour les dernières, sortir du nucléaire, enfin tout ce qu'il y a eu, et les mouvements à partir de Malville en 1977, toutes les associations, tout le combat anti-nucléaire, bah, tout ce qui était dit, tout ce qui est dit actuellement, enfin, ce que je suis en train de vous dire était dit, hein. C'est pas, mais les intellos, encore une fois, je sais pas, ils avaient fait des grandes écoles, formations et tout ça, et des formations. Ces sujets-là, ils n'en parlaient pas, et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit la philosophie, en particulier certains réfléchisseurs professionnels. Eh bien, ça ne les intéresse pas. Alors, bah, c'était une émission sur France Culture, hein, sur, je crois qu'ils font une semaine, c'est sur le vers 13h. Et lui, donc, son ouvrage « Réflexion sur la condition nucléaire ». Alors, il évoquait quand même dedans certaines choses. Pour lui, ce monde est invivable. Hein, voilà, puisque nous subissons une contamination continue des radionucléides. Alors je vous le dis quand même, le taux de cancer n'a jamais été aussi bien porté dans l'Hexagone. Hein, il faut le savoir. Hein, là aussi, le nombre de gens qui ont des cancers, le nombre de cancers à thyroïde, mais autres. Hein, pour les leucémies, les gens pour le poumon, c'est pas très bien. Les malformations, enfin, dans ce pays-là, il y a une sorte d'omerta, hein, vous le savez, après Tchernobyl, enfin tout ça, toute la clique de salopards, de menteurs, Monsieur Pellerin, enfin toute la bande à Madelin à l'époque, tout ça, ils sont toujours là, c'est bien payé. Et donc, il parle des nucléocrimes, hein, nucléocrimes. Alors, il fait référence, bon, lui, il faisait ça, philosophie, la référence à Michel Foucault, la philosophie comme politique de la vérité, et il disait quelques trucs. Alors, je vous dis, l'environnement, bon, c'est une notion stupide, hein, l'environnement, on n'est pas environné, on est dedans, on est complètement à l'intérieur, hein, vous êtes dedans. Sinon, ce nuage, c'est pas simplement un nuage de pesticides, ben, on vit dans une belle ambiance, comme on dit, dans un air radioactif, hein, voilà. Alors, bombe est centrale, et pour lui, c'est là, je vous avais parlé tout à l'heure de l'être radioactif, il emploie ce mot-là à dessein, enfin il fait référence, puis c'est un philosophe à Spinoza, en disant, c'est pas simplement vivant, être, exister, la radioactivité existe, donc il parle de la bombe, donc il parlait des bombes qui avaient été utilisées à Hiroshima et à Nagasaki, entre autres, hein, et des centrales nucléaires sur le même plan comme des êtres radioactifs. Alors, ce qu'il nous dit aussi, l'histoire de la bombe, l'histoire des bombes atomiques, blanchie d'une certaine manière, hein, comme on dit, blanchiment, par les centrales nucléaires, par les civils, on produit de l'électricité, donc vous voyez bien qu'avec les bombes, on les a utilisées. Et là, il est venu dire quand même un truc très important. Les Japonais étaient d'accord avant Hiroshima et avant Nagasaki, hein, c'est important, alors à vérifier, ça a été dit sur France Culture, que les États-Unis avaient voulu tester ces bombes et donc n'avaient pas les conditions. Alors, revoyons un historien un peu hors norme, un historien non officiel comme Howard Zinn, que beaucoup de conseils l'histoire des États-Unis par Howard Zinn, de, vous pouvez trouver à Publico, hein, je vous le dis, 145 rue Amelot, Paris 11e, je ne l'ai pas dit ce matin. Howard Zinn, dans son histoire des États-Unis, parle justement que les essais, eh bien, la reddition et les accords auraient pu se faire de paix avec les Japonais, et qu'ils ont été retardés parce que les États-Unis voulaient tester in vivo, eh bien, leur bombe atomique dont ils étaient fiers, la mise au point de Hiroshima et Nagasaki. Voilà ce qu'il a dit, ce qui serait pas étonnant, hein, puisque ça, c'est pas pour les États. Vous savez ce que compte un individu, hein. On va revisiter la guerre de 14. Eh bien, rien, hein. C'est ça, c'est citoyen, les États, ils s'assoient dessus. C'est rien du tout, hein. Vous êtes rien du tout. Donc, essai japonais. Alors après, il essaie sur le Japon, donc de ses bombes. Les blanchir un petit peu après, c'est les centrales nucléaires qui ont été imposées, hein, comme en France, vous le savez, sans débat, rien du tout. Leur général de Gaulle, enfin après la suite avec Giscard, hein, c'est ça, sans débat à l'Assemblée. Donc on impose le nucléaire en France. Omerta absolue des industriels, on n'en parle pas. Hein. Les industriels, on s'en doute, alors c'est ce qu'il dit. Hein, de toute façon, il dit c'est pas dangereux, premier temps. Après, il y a des gens qui sont blessés, des victimes et tout. On essaie de dire, bah non, on va rien faire. Après, il y a des procès, puis après, il y a indemnisation des victimes. Après, on va dire, on va changer un peu les trucs. Enfin, vous savez, pour toutes les affaires, les industriels, c'est comme ça dans la chimie. C'est pareil pour le pétrole. Enfin, vous savez très bien. Et là, quand même, j'ai entendu donc les journalistes officiels de France Culture dire, nous ne sommes pas pro ou anti-nucléaire, hein. Voilà, donc on n'est pas pro ou anti, nous, on est objectif. Et puis, bon, une des personnes qui anime cette émission, elle lui a dit quand même, elle avait un argument majeur, on ne peut pas s'éclairer à la bougie quand même, hein ? Ben voilà, on ne peut pas s'éclairer à la bougie. Le débat, 40 ans après, comme je vous disais, Fessenheim et tout ça, 45 ans. Et alors lui, il a dit, ben, un accident majeur est possible. Plus que possible, hein, vous le savez déjà, c'est même reconnu par le gouvernement. Leurs réacteurs français, ils sont au bout du rouleau, hein, plus de 30 ans, 40 ans. Donc ils vont parce que ça coûte cher, on va pas pouvoir remplacer les centrales nucléaires. Donc ils vont les rafistoler. Je vous avais parlé de rustine pour les faire durer 40 ou 50 ans. Et là, de son point de vue, c'était extrêmement dangereux, et donc, lui, il a dit, l'accident majeur, si c'est pas au Japon, c'est en France. Hein. Voilà. France ou Japon, c'est le prochain annoncé. Bon, enfin, on sait pas, il y a d'autres pays où il y a du nucléaire, mais dans quelles conditions, voilà, c'est annoncé. Et pour ici, rappelez qu'il y a quand même sur Paris, à côté de Paris, donc la centrale de Nogent, sur Marne. Et lui, il a dit, donc je vous le rappelle, hein, son bouquin, Jean-Jacques Delfour, La condition nucléaire, tout est prêt pour un accident majeur. Hein, voilà, donc les pastilles d'iode et tout ça, puisqu'à un moment de Fukushima, ça avait été envisagé, mais Là encore, souvenons-nous de Tchernobyl. Pellerin, il avait dit, ça s'était arrêté à la frontière, le nuage de Tchernobyl. Toutes les gens, ils s'étaient baladés, enfin, bouffés des fruits, des légumes, tout ça, à cette époque-là, vous savez, en 86, hein. Et ben là, c'était pareil avec Fukushima. Il y a des endroits à risque, il y avait des endroits où il y avait de la contamination, tout ça, complètement occulté par le lobby, enfin bon, le lobby bras-dessus, puisque je vous ai dit, monsieur Hérault, ils sont tous là après Notre-Dame-des-Landes, donc de faire des centrales nucléaires sur l'ensemble de la planète. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le nucléaire concerne quand même beaucoup les anarchistes, hein, pour des tas de raisons, hein, puisque là, encore une fois, autogérer une centrale nucléaire, c'est pas possible, c'est une oppression. C'est un crime, c'est quelque chose aussi qui demande l'intervention de la police et de l'armée, hein. Donc on est en otage, d'otage, on reprend de Frédéric Lordon, avec le nucléaire, hein, le salariat, l'otage du capitalisme, mais en plus, hein, on est plusieurs fois pris en otage, il vaut mieux, et on rappelait des textes pionniers de l'écologie politique. Alors, il y avait Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, on en a déjà parlé dans cette émission, hein. C'est donc un ouvrage qui vient de sortir, collection Anthropocène, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous. Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, alors nous sommes des otages. Nous sommes des victimes malgré nous, hein, puisque là, il n'y a pas de choix, on est tous à la même enseigne, hein, on vous balance ça sur la gueule. Et rappeler, donc, je vous disais, le lien avec les anarchistes, ex-pionniers de l'écologie politique, la revue Le Mouvement Social de janvier 2014 publiait un article d'Arnaud Bobéro, intitulé « Aux sources de l'écologisme anarchiste », hein, « Aux sources de l'écologisme anarchiste », Le Mouvement Social de janvier 2014. Et l'époque rappelait quand même un Rimbaud, hein, c'est pas le même, Louis Rimbaud et les communautés végétaliennes en France dans la première moitié du XXe siècle, c'était autour des années 1920. Là, il y a des tentatives, hein, comme je vous ai dit, on parlait des en-dehors, hein, vous savez, les fameux en-dehors au début du XXe siècle, essayaient de vivre autrement par rapport à l'État, évidemment, qui confisque tout, qui oblige tout, le travail obligatoire, la manière de s'alimenter, d'être libre, indépendant et pas de dépendre, évidemment, de l'agro-industriel, mais pour l'époque aussi, aller plutôt vers le végétarisme, par respect de la nature et par respect des animaux, hein, la moindre des choses, évidemment, dans le système dans lequel vous êtes, vous le savez, hein, ce que l'on fait aux animaux. On le fait aux hommes, et vice-versa, hein, c'est pareil. Donc là, Louis Rimbaud, donc la question, je dis la question, la condition nucléaire, la condition humaine, la condition anarchiste, par rapport à cette intervention de Jean-Jacques Delfour sur la question nucléaire. Alors ce qu'on peut faire, bah, c'est jusque au mois d'avril et après, et on continue à essayer d'informer, hein, le plus possible, de réveiller, réveiller les endormis, les assis, comme dirait Rimbaud, puisque je vous parlais de Rimbaud, c'était un autre, les inconscients, hein, comme les termes employés par les anarchistes, là aussi, donc, les aliénés, les gens soumis, les gens formatés, hein, les gens qui subissent la propagande, et puis qui se disent encore, bah là, on va aller voter, hein, on va aller voter. Il vient me présenter, il s'est présenté, et elle est élue. Ah, il a été élu, vous rendez compte, hein, bonjour, monsieur, madame la maire, la maire amère. Alors, les questions du monde, vous voyez, ces questions-là, bah, c'est quoi, hein, c'est anecdotique. Moi, je pense un peu, quelquefois, je me dis, c'était un peu la même chose. Vous savez, on rappelle souvent les relations avec l'Allemagne nazie dans cette émission, puisqu'on avait une rubrique sur le travail qu'on a toujours, hein, qui s'appelle Arbeit macht frei. Hein, c'était écrit sur les camps de concentration et d'extermination nazie. C'était un slogan, Arbeit macht frei, le travail rend libre, l'usine Farben, hein, c'était un slogan du patronat allemand, hein, faut pas l'oublier, parti nationaliste des travailleurs allemands, mais qui avait repris ce slogan de la patronat, de la bourgeoisie allemande des années 1920. Eh bien, beaucoup d'Allemands à l'époque, les gens qui ont été persécutés et d'autres qui sont partis, qui ont pu partir, sont avec ce qui se passait évidemment dans les années 30-40 par rapport la situation. Souvenons-nous, des gens disaient, les camps, tout ça, on habitait à 10-15 kilomètres dans des villages, on savait pas qu'il y avait ça. Là, je dis, c'est un peu la même chose. Près d'une centrale, vous habitez en France. Il y a des centrales nucléaires, il y a du nucléaire partout, et on ne sait pas. Non, on ne sait pas, c'est dangereux. Oui, Fukushima. Alors, comme est venu dire, une nénette, je dis ça à France Culture, elle a dit simplement, oui, mais là, il y avait un pic de pollution il y a 3 jours. Alors, qu'est-ce qu'on ferait, hein? On peut plus rien faire. On peut plus rien faire, on peut pas rouler, on peut pas prendre sa bagnole, tout est dangereux, on peut plus rien manger. Il y a un mec, j'ai entendu pour le diesel, il disait, l'autre, tu parlais du nucléaire, il disait, mais le diesel, c'est pareil, c'est dangereux, alors on va plus rouler. On va s'éclairer à la bougie. Le débat est là, et là aussi, ignorance, refus de discussion, refus de savoir. On est dans cette situation-là, et la même chose de dire, on savait pas, hein. Non, donc c'est mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Donc sur cette question, ceux qui veulent se faire une petite idée, puisque le choc des mots, le poids des photos, peuvent aller voir tous les documents. Vous avez ça sur Internet, sur Fukushima et le reste et la suite. Toutes les zones, tout l'exode qui a eu forcé, 200 000 personnes donc qui ont été déplacées. Enfin voilà la situation au Japon et qui est sous contrôle, comme on dirait au Japon, puisque les centrales nucléaires là-bas sont arrêtées. Mais le Premier ministre, comme on dit, comme un héros là-bas, un héros japonais, est prêt à les remettre en route. Et là, la dernière manifestation, 3 ans après Fukushima, 30-40 000 Japonais, ça baisse un petit peu. Et là encore, quelques mois, quelques années, et l'oubli. Et puis ça pourrait repartir, ça pourrait recommencer, puisqu'il y a des projets quand même de construction. Vous savez que le Japon, c'est un archipel dans certaines îles du Japon. Donc deux centrales nucléaires, comme je vous disais, ce sont des bombes, ce sont des êtres, comme disait le philosophe tout à l'heure. Je vous parlais de ça pour qui s'appelle, je vous le rappelle, Jean-Jacques Delfour. Jean-Jacques Delfour, vous parlez des êtres nucléaires, donc la condition nucléaire, et donc lui, pour lui, c'est le crime majeur de nos sociétés industrielles, de nos sociétés modernes, et contre ça, évidemment, de se révolter, de se battre, d'informer les gens, et de réveiller, comme je dis, d'agir, comme vous le savez, c'est ce que disent les anarchistes, agir au lieu d'élire. Voilà, chronique hebdo, c'est terminé. J'avais ça avant de terminer, mais peut-être que je reviendrai sur la nouvelle plume, la plume de Monsieur Hollande, ce qu'on appelle plume nègre, ou Ghostwriter in English, c'est-à-dire le fantôme. Celui-là, c'est un bon qui s'appelle Pierre-Yves Bocquet. Alors, vous savez que la plume de Sarko, c'était Guénaud. Moi, je l'appelais Papa Guénaud, puisque vous savez, donc la flûte, on l'a entendu Mozart tout à l'heure. La plume enchantée du Sarkoland, Papa Guénaud. Et puis là, on va faire pour Monsieur Bocquet, débile Bocquet, non, comme ça, la plume de débile Bocquet, la plume de Hollande. Et alors c'était assez croustillant, parce que ce mec-là est un spécialiste du gangsta rap. Ça va bien des gangsters. Vous êtes dans un monde de gangsters, en plein dedans, donc la plume d'Hollande. Il l'a bien choisi. Alors, il a été... il a fait un peu d'énarchie. Pour nom de sa promotion, Guy Debord. Alors, je pense qu'il avait tiré au sort. Je sais pas s'il savait qui il était. Ce que l'on dit... Il aurait un style hardcore. Je sais pas s'il va faire les discours. Et subjectif. Matiné d'une approche politique et sociologique à la Bourdieu. Bon, moi, si vous avez compris, sûrement pas, mais c'est fait pour ça, hein. C'est un spécialiste. On dit qu'est-ce qu'il vient faire, et d'abord, on sait pas ce qu'il vient faire dedans, Bourdieu. Donc, ce mec-là, la plume, passionné de gangsta rap, et de son, on nous parle la verve Devil, il a écrit, Devil, Pierre-Yves Boquet, sous ce pseudo Devil, a écrit pour le groupe hip-hop Drez Dead Prez. Dead Prez, que ça veut dire président mort. Ainsi nommé ce groupe, il a fait partie, le mec, il écrit là pour ça, la plume de Hollande, Dead Prez, président mort, qui orne les billets de banque américains, hein, états-uniens, on va dire ici. Alors voilà, Dead Prez, alors peut-être qu'il pense à Hollande, qu'il est déjà mort, hein, on ne sait pas. Ils sont morts, hein, vos présidents. C'est pour ça que la plume de Lande bouge encore. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, c'est terminé. Ben, on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Salut !